Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Ces temps derniers, j'ai lu ce livre et il y a beaucoup de choses qui sont interpellantes dans ce livre. Genèse, Exode, Lévitique et Nombres, hein, donc Deutéronome, livre qui fait partie du Pentateuque. Alors, si vous commencez à lire, si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous encourage à le lire. Et il fait un peu comme le livre du Lévitique, un livre qui peut être un peu déroutant au début parce qu'il y a des nombres, hein, et des statistiques. Mais comme le frère vient de le dire dans sa prière, toute écriture est inspirée, enfin c'est ce que la Bible dit, hein, avec la cité, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre et corriger. Et le livre des Nombres est un livre qui recouvre à peu près 38 ans de l'histoire du peuple d'Israël et principalement le temps que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Vous vous rappelez lorsque Dieu l'a fait sortir d'Égypte et puis l'a amené aux portes de Canaan, il y a eu des espions qui sont partis et puis les espions sont revenus. Sur 12, il y en a 10 qui ont décrié le pays et qui ont fait peur au peuple et qui ont dit « Nous avons vu des géants, etc. et donc ce peuple va nous dévorer. » Et ils ont découragé le peuple et il n'a pas pris possession du pays comme Dieu avait ordonné de le faire. Et ont mis Caleb et Josué, tous ont décrié le pays. Et donc le peuple s'est découragé. Et Dieu a dit, bien, puisqu'il en est ainsi, bien, toute cette génération à partir de 20 ans ne rentrera pas dans le pays de Canaan. Et il les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Et le livre des Nombres résume, raconte un petit peu en partie hein, cette pérégrination dans le désert, ces 40 ans passés dans le désert. Et il relate donc l'expérience du peuple d'Israël, mais en même temps, l'expérience du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la main de Dieu qui agit. Et donc ce livre est très, comment je vais dire, intéressant sur cet aspect parce qu'il nous révèle aussi comment Dieu agit à travers son peuple. Et je crois que c'est le Deutéronome qui nous dit que pendant tout le temps où le peuple est resté dans le désert, mais Dieu a pris soin de lui, même si c'était une punition de Dieu, eh bien Dieu a pris soin de son peuple dans ce désert. Et le chapitre que j'aimerais que l'on regarde aujourd'hui, les chapitres, on va pas tous les voir, mais c'est le chapitre 22 à 24 que vous connaissez bien, qui retrace l'histoire d'un prophète qu'on appelait Balaam. Donc certainement, vous connaissez très bien cette histoire. C'est le récit d'une opposition contre le peuple d'Israël. Alors c'est intéressant parce que le peuple a péché, il est dans le désert, il est puni par Dieu. Au sein du peuple même, il se passe des choses. Hein. Il pêche, il agit contre la volonté de Dieu. Donc il y a on pourrait dire des attaques intérieures, mais le peuple est aussi l'objet d'attaques extérieures. Parfois, c'est des attaques militaires qui viennent de l'extérieur, mais parfois, c'est des attaques dont le peuple n'est même pas conscient. Et là, on est dans une de ces attaques-là, parce que l'histoire se situe, là, comme si vous lisez le livre des Nombres, eh bien, il est question du peuple d'Israël et de Moïse partout. Et puis là, pendant 3 chapitres, Moïse disparaît, on voit apparaître quelqu'un qui s'appelle Balaam, et puis qui est embauché par quelqu'un d'autre, un autre roi qui s'appelle Balak, et puis le peuple d'Israël ne sait même pas ce qui se passe, ce qui se trame. C'est une histoire entre des hommes et puis Dieu. Et Dieu qui protège son peuple, sans que ce peuple soit même conscient de la menace dont il fait l'objet. Et donc, 40 années dans le désert, je le disais, de pérégrination dans le désert, pour qu'une génération puisse disparaître, c'est ça que Dieu voulait, que toute une génération disparaisse et que la prochaine entre en possession du pays. Et le peuple est donc maintenant prêt à entrer en Canaan. Donc on arrive à les chapitres 22, 23, 24, et c'est un peu 25, 26, c'est là où le peuple s'apprête à rentrer dans le pays de Canaan. Et pour prendre possession du pays, il faut livrer des batailles, le peuple livre des batailles. Il remporte des victoires, il défait les Amoréens, il défait Og, qui est roi de Bazan, et tout son peuple. Et puis, la Bible dit au chapitre 22, verset 1, qu'il s'établit, donc prenez Nombre, chapitre 22, qu'il s'établit dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et le roi de Moab, là, il prend peur, parce qu'il voit ce que le peuple a fait aux autres nation, comment il s'est battu, comment de manière extraordinaire il a remporté des victoires. Et il voit ce peuple nombreux assemblé là dans la plaine et il est effrayé. Le verset 4 dit, il dit au verset 4, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Et Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Et donc ce roi, il a peur. Et il a peur, on ne sait pas pourquoi, bon, parce qu'il ne connaissait pas la parole de l'Éternel, qui avait déjà dit, déjà d'ailleurs, hein, je vous lis, hein, en Deutéronome chapitre 2, verset 9, Moïse dit, l'Éternel me dit, n'attaque pas Moab. Mais Moab a quand même peur, parce que Moab ne sait pas que Dieu avait demandé au peuple de ne pas attaquer, de ne pas engager de combat contre lui. Alors le roi de Moab, dans sa peur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il envoie chercher un homme qui est nommé dans le Nouveau Testament comme un prophète, qui s'appelle Balaam. Il se dit, je ne vais pas affronter ce peuple de manière militaire, parce qu'il semble invincible, on va l'attaquer d'une autre manière. On va l'attaquer sur un autre plan. Il va chercher un moyen surnaturel de se débarrasser de ce peuple. Alors certains qui viennent de certains pays, vous savez, parfois on parle de faire des gris-gris, de faire des trucs hein, pour pouvoir lutter, mettre des choses contre les gens qui nous causent du trouble. C'est un petit peu ça, ce à quoi pense Balak. Il veut chercher un homme qui va maudire le peuple de Dieu, simplement. Pas le combattre militairement, mais qui va lancer contre lui des malédictions, afin de pouvoir le réduire. Alors c'est ce qu'on lit au verset 6, il dit, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, et peut-être ainsi pourrais-je le battre, et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis, est béni et celui que tu maudis est maudit. » Voilà la réputation de Balaam. Balaam, c'est un homme, il dit ici, dont la réputation l'a précédé jusqu'auprès du roi de Moab, jusqu'auprès de Balak. Et Balak dit, je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Mais on pense ici, c'est pas la bénédiction comme celle qui vient de l'Éternel, mais c'est un homme qui pouvait aussi faire ce qu'on appelle des enchantements. C'était une espèce de devin, de magicien. Hein. Si vous regardez au chapitre 24 et au verset 1, il est dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla pas comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Hein. Donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire les enchantements. C'est quelqu'un, comme disait un orateur, c'est le genre de personne que l'on va voir parfois dans certains lieux pour qu'il nous aide à passer des examens, qu'ils nous disent comment il faut nous habiller ou qui c'est avec qui on va pouvoir se marier, hein. Est-ce que telle situation va, voilà, ils vont, des gens qui ont des accès, hein, et puis qui peuvent plus ou moins nous aider dans nos affaires, hein. Ça existe encore de nos jours, n'est-ce pas? Une espèce de sorcier. Alors, on lit dans le récit de Balaam, que bien que ne faisant pas partie du peuple d'Israël, il vient d'une ville située sur le bord de l'Euphrate, en Mésopotamie, donc peut-être la même contrée qu'Abraham un peu, et on voit quand même qu'il avait une certaine connaissance de Dieu. Et on a l'impression qu'il cherche même à une certaine direction de la part de Dieu. Mais il est à la fois une sorte de prophète et puis une sorte de devin magicien. Et le Nouveau Testament, heureusement, jette une lumière très claire sur qui est ce Balaam. Alors, si on lit dans 2 Pierre, chapitre, il y a trois fois cité dans le Nouveau Testament, 2 Pierre, chapitre 2, regardez, hein, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 15, 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 15, il dit, ici, Pierre dit, alors il parle de faux enseignants, de personnes qui corrompent le peuple de Dieu. Et puis, il arrive au verset 15, il parle de personnes donc, qui s'installent dans l'église, qui font bonne chère avec l'église, qui sont là, qui s'associent, qui font semblant d'être bien. Et puis après, mais finalement, ils touchent aussi à d'autres choses. Ils ont le cœur, ils ont les yeux pleins d'adultère, verset 14. Ils sont insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Et ce sont des enfants de malédiction, mais ce sont en même temps des gens qui sont là et qui font bonne chère avec vous. C'est-à-dire qui s'installent parmi vous et avec qui vous avez des échanges, même au milieu de vos agapes, disait l'épître de Jude. Alors verset 15, il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils, ces personnes-là, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Donc il parle, voilà, de ces personnes comme des gens qui ont suivi la voie de Balaam. Autrement dit, c'est un homme qui a suivi une mauvaise voie, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Et puis je lis en Apocalypse, chapitre 2, aussi, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Nous lisons ceci. Donc, c'est une lettre à l'église de Pergame, verset 1, chapitre 2, pardon, verset 12. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Donc, c'est une lettre que Dieu adresse à l'église de Pergame. Et verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, à l'immoralité sexuelle. Voilà quelle était l'influence de Balaam. Alors on va revenir dans le livre des Nombres. Parce que ce que je voudrais souligner ici, c'est Balaam est le Dieu d'Israël. Et ce texte nous montre davantage qui est le Dieu d'Israël à travers un petit peu l'attitude de Balaam. On sait que c'est un homme qui avait dans le cœur une profonde cupidité et qui aimait le salaire même de l'iniquité, qui à la fin a proposé, ne pouvant pas maudire le peuple de Dieu, il a proposé à Balak de corrompre le peuple de Dieu en faisant venir des femmes madianites avec lesquelles ils se sont mariés, ils ont eu des relations sexuelles et puis ensuite se sont mêlés à leur idolâtrie. Quand ils ont commencé à adorer, c'est ce qu'on appelle l'affaire de Baal Péor. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il est fait référence à cet épisode de la vie du peuple d'Israël. On sait que c'était un homme de cette nature-là. Mais en même temps, c'est un homme qui a une certaine relation avec Dieu. Et on le voit tout au long du chapitre 22. Donc, Nombres chapitre 22, on va lire les premiers versets de ce chapitre. Et ce que je voudrais ce matin, c'est que nous puissions tirer peut-être deux grands enseignements sur Dieu dans cet épisode de la vie du peuple d'Israël. Nombre chapitre 22. Alors les enfants d'Israël partirent et campèrent dans la plaine de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, car comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin, pour Balaam. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint et il dit, « Qui sont les hommes que tu as chez toi ?» Ça commence mal parce que Dieu qui connaît toutes choses pose une question, « Qui sont les hommes qui demeurent chez toi ?» Il sait qui sont les hommes qui demeurent là. Et donc c'est déjà une première manière d'interpeller, on pourrait dire, Balaam. C'est comme il a dit, comme quand il a dit à Adam, « Où es-tu ?» C'est exactement le même genre de question. Verset 10, Balaam répondit, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Ça, c'est la réponse de Dieu. Balaam se leva et dit au chef de Balak, « Allez dans le pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Ce qui n'est pas toute la réponse, d'ailleurs. Verset 14, « Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérables que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Bon, il vient de dire, je ne ferai rien contre l'ordre de qui ? De l'Éternel, mon Dieu. Et Dieu a dit, tu n'iras point. Et là, il dit, maintenant, je vous dis, restez ici, et je verrai ce que l'Éternel dira encore. Et c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce que Dieu dirait maintenant le contraire de ce qu'il a dit avant? Pourquoi il dirait oui, vas-y, alors qu'il avait dit non, n'y va pas. C'est-à-dire que Dieu ne sait pas exactement ce qu'il faut dire. Ça dépend du nombre de personnes qui viennent, ça dépend des circonstances. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Balak lui-même va prononcer cette parole plus tard. D'accord ? Et quand il parle droitement dès la première fois, n'est-ce pas? Et donc c'est une erreur déjà de la part de Balak de loger ses hommes une seconde fois pour chercher encore la volonté de Dieu. Mais, verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Bon, ça pose un petit problème quand même. Dieu vient de dire, on va dire la veille ou quelques semaines avant, « Tu n'iras pas avec eux, parce que ce peuple est béni. » Et puis maintenant il dit, « Va avec eux. » Est-ce que Dieu a changé d'avis? C'est là la question. Verset 21. Alors Balaam, bien sûr, il n'attendait que ça. Et donc dès que Dieu donne l'ordre, le lendemain, il est déjà parti. Il a scellé son âne et il partit avec les chefs. Verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Oh là, c'est un peu plus compliqué encore. Dieu dit « va ». Dieu dit d'abord « n'y va pas ». Tu n'iras pas avec eux. Puis après, Dieu dit, va avec eux. Et donc, il lui dit, pars. Et quand il part, Dieu se met en colère. Et pourquoi il se met en colère? Parce qu'il est parti. D'accord. Et puis, la Bible dit, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Pour lui résister. On va s'arrêter là pour l'instant. Je voudrais souligner à partir de ce passage et un peu la suite, deux choses ici que ce texte nous montre concernant Dieu. Premièrement, et ce qui peut être une leçon pour nous, c'est que Dieu permet ce qu'il n'approuve pas toujours. Dieu permet ce qu'il n'approuve pas toujours. Et ce que fait Balaam ici, c'est de chercher une permission de Dieu. Dieu a déjà dit, non, la volonté de Dieu, la volonté profonde de Dieu, il la connaît. C'est non, tu n'iras pas avec eux. Mais quand ces hommes reviennent une seconde fois, eh bien, Balaam, qui connaît la réponse de Dieu, va encore chercher quelque chose de la part de Dieu. Et il va, ce qu'il a dans son cœur montre que ce qu'il cherche, c'est un oui de la part de Dieu. Et même si le oui de Dieu, oui de Dieu n'est en fait qu'un non, il va y aller quand même. Vous connaissez ça, il peut y avoir des parents, peuvent connaître cette situation où votre enfant vous demande quelque chose, puis vous dites non. Non. Moi, je t'ai dit non, ce n'est pas ce que tu dois avoir. Et puis après, il prend tellement, comme on dit, la tête qu'il dit, ok, vas-y. Mais le vas-y, ça veut dire non. On le sait bien, hein. Là-dedans, c'est un vas-y de, puisque c'est ce que tu veux, vas-y. D'accord. Mais dans le fond, ce rue-là n'est qu'un non. C'est à peu près, on pourrait dire presque la même chose ici. Dieu dit, vas-y, mais il avait déjà dit non. Et ce que fait Balaam ici, c'est de chercher ni plus ni moins qu'une permission de la part de Dieu. Forcer les choses jusqu'à ce que Dieu accorde une permission ici. On s'attendrait bien à ce qu'il renvoie dès la seconde fois ces nouveaux chefs qui sont venus en disant « Ben, Dieu a déjà dit non, j'ai déjà dit ça aux prédécesseurs, etc. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Une fois ces hommes revenus, il va chercher une seconde, il va consulter Dieu une deuxième fois, et peut-être qu'il y aurait eu une troisième fois, pour savoir ce que Dieu dirait, afin d'obtenir une permission de la part de Dieu. Mais la voie de la permission, ce qu'on peut voir ici de Dieu, révèle simplement la voie, révèle la rébellion du cœur humain. Ce que l'on voit ici, c'est qu'on a affaire à un homme qui a un cœur qui est motivé par quelque chose et qui est rebelle à l'ordre de Dieu. Et quand le cœur est rebelle, il cherche toujours une permission de la part de Dieu. En Matthieu chapitre 19, par exemple, vous vous rappelez, lorsque ces, ces pharisiens, on ne sait plus, sont venus discuter avec Jésus, et puis ils ont posé à Jésus une question, est-ce qu'un homme peut divorcer d'avec, peut-il répudier sa femme? Et puis Jésus dit, qu'a-t-il écrit dans les commandements? C'est Dieu qui a joint l'homme et la femme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Et puis, ces hommes disent, mais pourquoi donc Moïse nous a-t-il donné une lettre de répudiation? Et Dieu dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis. D'accord? Que vous répudiez. Mais au commencement, dit Dieu. C'est-à-dire, il n'en était pas ainsi. Mais la loi de Dieu, c'est qu'il n'en soit pas ainsi. Et donc, voyez ici, Jésus oppose une permission intégrée dans sa loi par rapport à la loi de Dieu elle-même. Et ici, c'est ce que l'on voit ici. On voit un homme qui connaît d'une part la loi de Dieu, mais qui cherche une permission de la part de Dieu. Et combien d'enfants de Dieu parfois s'engouffrent dans cette petite permission de Dieu en négligeant la loi de Dieu, surtout dans ce contexte de divorce et de mariage, etc. On aime bien citer, oui, mais il y a une petite fenêtre où dans laquelle, et on s'engouffre dans cette petite permission, parce que le cœur qui n'est pas droit devant Dieu cherche toujours à obtenir une petite permission de Dieu, plutôt qu'à obéir à la loi clairement révélée de Dieu. Dieu permet à Balaam de partir parce que Dieu permet ce qu'il n'approuve pas toujours. Et on peut voir que le voir par le fait que même lorsque Dieu permet, eh bien, sa colère peut éclater. On le voit ici dans le passage que nous avons lu. Hein, Balaam part, il ne perd pas un instant. Et le texte dit que Dieu se met en colère parce que Balaam est parti. Ne va pas avec eux, va avec eux, et quand il va, Dieu se met en colère. Donc la permission de Dieu peut entraîner la colère de Dieu. Dieu peut permettre quelque chose pour lequel il se met en colère et pour lequel il frappe celui à qui il a donné la permission. Ça, c'est quelque chose qui doit faire réfléchir ici. Quand on insiste pour obtenir une permission de la part de Dieu, il peut l'accorder, cette permission, et il peut ensuite châtier pour la permission qu'il a donnée. Et on a des exemples de cela dans la parole de Dieu. Un exemple frappant est cité dans le même livre des Nombres, au chapitre 11. Vous vous rappelez, lorsque le peuple avait réclamé de la viande à manger. Et Dieu leur a donné de la viande. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette manne, cette misérable manne, etc. Il voulait de la viande à manger. Qui nous donnera de la viande à manger? Et Dieu dit à Moïse, eh bien le peuple aura de la viande, parce qu'il a demandé de la viande. Mais regardez ce que, alors on peut lire ça dans Nombres chapitre 11, mais on va regarder le résumé de tout cela dans le psaume 78, et au verset, psaume 78, verset 27. Psaume 78 au verset 27. Il dit, il fit pleuvoir sur eux, pleuvoir, imagine la viande qui tombe comme de la pluie, hein. Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière et comme le sable de la mer et les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient, quoi? Désiré. Dieu donne ce qu'ils ont désiré. C'était leur désir à eux. Dieu leur a donné. Et le psalmiste le dit. Au verset 30, il dit, ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux et il abattit les jeunes hommes d'Israël. Voyez ça ici. Qu'est-ce que le texte dit? Que Dieu donne ce que l'homme désire. Et une fois qu'il a ce qu'il désire, il le frappe pour ce désir qu'il a eu. Et donc Dieu peut donner ce qu'il n'approuve pas et punir pour ce qu'il a donné. Et ça, c'est pour cela qu'il se met en colère ici concernant Balaam. Il voit ce qu'il y a dans le cœur de Balaam, n'est-ce pas? Et donc Dieu accède à la demande, à ce que l'on demande. Il peut accéder à ce que nous demandons. Il peut accorder selon ce que l'homme désire. Mais quand on insiste, il peut donner cette permission et puis frapper pour cette même permission qu'il a donnée. Et donc la colère de Dieu peut être sur le chemin de la permission de Dieu. Et on peut voir aussi que dans ce texte, que la permission de Dieu peut être le chemin vers la perdition. Quand Dieu se met en colère contre Balaam, regardez au verset 22, il dit « Balaam était monté sur son âne », et au verset 23, il dit « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel ». Donc l'Éternel se met en colère, verset 22, pardon, « L'ange de l'Éternel se place sur le chemin ». Et puis l'ânesse voit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dans la main. Elle se détourne une première fois dans les champs. Balaam frappe l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se place dans un sentier entre la vigne. Et il y avait un mur du côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle serre contre le mur. Elle presse le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappe de nouveau. Et l'ange de l'Éternel passe plus loin. Il se place au milieu, dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, ni à droite, ni à gauche. Alors à ce moment-là, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Et la colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec le bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. » Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel et qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Il est sur le chemin lequel Dieu a dit « Va », sur lequel Dieu a donné une permission. Mais le chemin de la permission se révèle être pour lui le chemin de la perdition. Verset 33, « L'ânesse m'a vu, dit l'ange, et elle s'est détournée devant moi trois fois. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » C'est ironique quand même, parce que Balaam dit, « Si j'avais une épée, je t'aurais tué. » Tu vois? Et l'ange dit, « J'ai une épée. » Et si l'ânesse ne s'était pas détournée, je t'aurais tué et je t'aurais laissé la vie. Et quand il dit « Je suis venu », par deux fois il dit « Je suis venu pour te résister ». C'est le mot qui est traduit parfois « Satan » dans d'autres endroits dans la Bible. Je suis venu pour te résister. Montre à quel point, même sur la voie de la permission, Dieu cherche à résister à Balaam. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est un chemin qui peut mener profondément à la perdition et à la perte ici. Et donc on voit le danger sur lequel se trouve celui qui cherche à marcher que selon les permissions que Dieu donne. Une autre chose que l'on peut voir concernant cela aussi, c'est que la voie de la permission de Dieu est une voie d'endurcissement du cœur parfois. Dieu avait dit non au prophète, Balaam. Et Balaam aurait dû en rester là. Mais quand ces hommes sont venus, il a encore cherché la volonté de Dieu, il a obtenu une permission, il l'obtient, Dieu se met en colère, Dieu envoie son ange, fait parler un âne, son ânesse, il discute avec l'ânesse, hein, et puis il voit l'ange, il tombe sur sa face, et il dit, verset 34, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. » Et puis on s'attendrait à ce qu'ils disent. Je retourne. C'est ça, se repentir. Je vais faire demi-tour. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit à l'ange? Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. C'est-à-dire, je continue mon chemin. Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose pour me dire qu'il ne faut pas le continuer. Il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, là. Un âne qui parle. Hein. C'est comme si vous êtes dans votre voiture et puis vous allez quelque part. Vous savez bien que ce n'est pas là qu'il faut aller dans votre cœur. Dieu a déjà dit non, mais voilà, vous avez insisté, et puis finalement, vous allez dans ce lieu que vous ne devez pas aller. Et puis, pour une raison ou pour une autre, votre voiture voit un ange et elle part dans le fossé. Et puis, vous comprenez que c'est Dieu qui vous parle. Et puis, vous reprenez votre voiture et vous dites à Dieu, si vraiment tu ne veux pas que j'aille, dis-le-moi, mais vous continuez sur la même route. Parfois, on réagit comme cela. Hein. Dieu a déjà dit plusieurs fois ce qu'est sa volonté, mais on lui dit, écoute, si vraiment ce n'est pas ta volonté, dis-le-moi clairement. Hein. Quelqu'un m'a dit une fois, bon, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu, ce n'est pas sa volonté que je fasse ça, eh bien, qu'il ferme les portes devant moi. Mais Dieu a déjà dit, je dis, écoute, c'est clairement écrit que ce n'est pas ce que l'enfant de Dieu doit faire. Il dit, mais oui, mais qu'il m'arrête. C'est un peu ce que fait ici Balaam. Il dit, si tu me désapprouves, ben, il sait bien que Dieu le désapprouve. Dieu, il vient de dire que c'est le chemin qui mène à la perdition. Il le sait. Il dit, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Mais dis-le clairement que je puisse comprendre. Dieu dit clairement, parle clairement que je puisse comprendre ce que tu as à dire. Et puis je vais le faire. C'est parce que Dieu n'est pas suffisamment clair. Quand il parle, sa parole n'est pas suffisamment claire qu'on a besoin à chaque fois, selon nous, d'avoir des confirmations et puis des confirmations et puis des confirmations. Le fils prodigue, quand il est rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais ce que je ferai. Je me lèverai et je retournerai chez mon père. Et la Bible dit, dans Luc, il s'est levé et il alla vers son père. Il a pris le chemin du retour. Quand il est rentré en lui-même, il n'a pas dit, Dieu, si vraiment tu penses que j'ai péché, dis-le-moi et je retournerai chez mon père. C'est vrai, j'ai péché. Parce qu'il dit, j'ai péché ici. Mais si tu penses que c'est vraiment grave, dis-le-moi et je... Non, il se lève et il prend la décision de revenir dans la repentance chez son père. C'est ce que Dieu attend vraiment. Et là, on voit que en progressant sur le chemin de la permission, eh bien, le cœur de Balaam n'a fait que s'endurcir. Son cœur n'a fait que s'endurcir. Et quand on s'entête dans ce qui n'est qu'une permission de la part de Dieu, eh bien, le cœur s'endurcit, on devient aveugle et on devient insensible, même aux choses les plus extraordinaires qui peuvent se passer dans notre vie. Dieu fait quelque chose d'extraordinaire et il n'arrive même pas à réfléchir avec tout cela. Et son endurcissement va aller même, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à conseiller à Balak de pervertir sexuellement et dans l'idolâtrie le peuple de Dieu. Et ce qui a attiré la colère de Dieu après sur le peuple. Puisque dans Nombre chapitre 25, on voit comment le peuple a été a été frappé. On peut tirer de ce premier aspect des choses, plusieurs choses, chers frères et sœurs. Premièrement, on l'a dit, hein, Dieu peut permettre ce qu'il n'approuve pas. Il n'approuve pas tout ce qu'il permet. Et que le cœur obéissant, c'est le cœur qui ne cherche pas à forcer la permission de Dieu, mais c'est le cœur qui se plaît dans l'observation de la parole de Dieu qui a déjà été révélée. Dieu peut céder à nos instances. Dieu peut céder à nos instances, mais à notre détriment, même s'il sait qu'il va devoir nous corriger ou nous punir pour cela. Il peut accorder ce que nous lui demandons, même si cette chose va causer notre tort et va nous causer sa propre colère. Et donc je voudrais dire ceci, il ne faut pas présumer que la permission que Dieu donne est une approbation. C'est pas parce que finalement j'ai demandé cela, j'ai obtenu cela, je continue ici, que c'est une approbation de la part de Dieu. Et donc chaque chose que nous voulons faire, nous devons le mettre vraiment devant Dieu et réfléchir, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Si la parole de Dieu dit clairement non, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller négocier avec Dieu. Dieu ne négocie pas. Si on veut ça, il laisse. Il dit vas-y. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Et sa colère peut éclater à n'importe quel moment. Donc Dieu peut, je disais tout à l'heure, permet ce qu'il n'approuve pas toujours. Je crois que c'est une grande leçon que nous pouvons tirer de ce passage. Mais une deuxième vérité, c'est que Dieu agit toujours de manière à révéler son caractère. Dieu agit toujours de manière à révéler son caractère. On pourrait se poser la question suivante, pourquoi Dieu qui a tout pouvoir n'a-t-il pas arrêté tout simplement Balaam dans son voyage? Il aurait pu empêcher qu'il parte, lui casser une jambe, je ne sais pas, faire quelque chose. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et une des raisons, c'est probablement que Dieu veut se révéler à travers les péripéties de l'histoire humaine. Il se révèle à Balaam, il se révèle à Balak, mais il se révèle aussi à nous. Le peuple d'Israël n'est pas conscient de cette histoire, on l'a dit. Hein. Il ne le sait même pas qu'il est l'objet d'une demande de malédiction de la part d'un roi païen. Il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il y a une sorte de prophète qui est en discussion avec Dieu et qui veut aller le maudire. D'accord. Donc cette histoire est rapportée pour que nous puissions nous le savoir. Et puis plus tard, le peuple d'Israël l'a su aussi, puisque dans différents passages de l'Ancien Testament, cela a été rapporté. Dieu agit toujours de manière à révéler son caractère aux hommes. Et ce que l'on voit ici, parmi plusieurs choses, mais je vais en citer que quelques-unes, c'est que Dieu est souverain sur toute chose. Dieu est souverain sur toute chose. Il est souverain en matière de malédiction et de bénédiction. Ici, Balaam est engagé par Balak pour maudire le peuple. Mais Dieu lui avait dit, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Et donc on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Quand Dieu dit mes enfants sont bénis, personne ne peut les maudire. Et s'il maudit, personne ne peut bénir. Et donc non seulement Balaam n'a pas pu maudire le peuple, mais il a prononcé des bénédictions sur le peuple de Dieu. Et il prononce 4 oracles. On ne va pas les lire aujourd'hui, mais il y a 4 oracles différents que Balaam prononce, donc du chapitre 23 jusqu'au chapitre 24. Et il bénit le peuple. Au point où Balak dit, mais attends, mais je t'ai engagé pour maudire ce peuple et voici 3 fois déjà que tu le bénis. Il dit, au moins si tu ne peux pas le bénir, tu ne peux pas le maudire, mais ne le bénis pas. Et Balaam dit, moi je fais ce que Dieu me demande de faire. Donc Dieu est souverain sur toute chose. Il est souverain sur la malédiction et sur la bénédiction. Et Balaam était parti vraiment avec l'intention de maudire ce peuple. Même si Dieu avait dit, tu ne le maudiras pas parce qu'il est béni, lui, dans son cœur, il s'est dit, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, je vais le faire et je pourrai maudire ce peuple et empocher la somme que l'on me promet. Et le Deutéronome le dit, hein, ici, Deutéronome 23, 3 à 5 dit, l'Ammonite, le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Parce qu'ils ont fait venir contre toi, à prix d'argent, Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. C'est extraordinaire ça. Il dit que, en fait, ce que Balaam a fait, il a prononcé parmi les quatre oracles, il faut les lire à la maison, je vous encourage à les lire. C'est magnifique. Et le quatrième, dans le quatrième, c'est l'un l'une des prophéties les plus merveilleuses sur la venue de Jésus-Christ. C'est Balaam qui prononce ça. Vous voyez? Et Dieu dit, ici, Moïse dit, l'Éternel ton Dieu n'a point écouté sa voix. Balaam, ce qu'il demandait à Dieu, c'était de maudire ce peuple. Mais Dieu est tellement souverain sur les bénédictions et sur les malédictions que Balaam a béni le peuple de Dieu. Et cela est encourageant. Ce n'est pas le diable qui est souverain en matière de bénédictions et de malédictions. Et parfois, des chrétiens, ils ont peur de ce que le diable pourrait faire. Ils ont peur de ce que les hommes pourraient faire. Mais le texte nous montre que Dieu est celui qui est souverain sur la malédiction et sur la bénédiction. Mais aussi, il est souverain sur les hommes. En laissant aller Balaam, en ne le retenant pas, nous pouvons apprendre que Dieu est souverain sur tous les hommes. Balaam n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Il le dit lui-même. Je ne peux pas dire autre chose que ce que Dieu me dit de dire. Mais non seulement il n'est pas libre de dire ce qu'il veut, mais il dit exactement ce que Dieu veut qu'il dise. Et il peut prononcer des paroles merveilleuses. Il peut même être saisi par l'Esprit de Dieu. Regardez au chapitre 20, je crois que c'est 23, hein. Ici j'avais noté ça, chapitre 24, pardon, et au verset 2, il est dit, Balaam leva les yeux, alors verset 1 est intéressant, il dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et donc il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre de Balak, à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert, et Balaam leva les yeux, vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui, et Balaam prononça son oracle. Ça c'est le troisième oracle qu'il prononce. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Dieu saisit Balaam par son esprit. C'est Balaam, c'est-à-dire c'est l'homme qui a donné le conseil plus tard pour envoyer les Madianites auprès du peuple. C'est l'homme dont le cœur est plein de cupidité. Dieu le saisit par son esprit et lui fait prononcer des paroles merveilleuses. Parce que Dieu est souverain sur tous les hommes. Dieu est souverain sur tous les hommes. Cela fait penser à une chose. C'est que il ne faut pas croire que parce qu'on est capable de prononcer de bonnes choses, ou parce qu'on a une certaine connaissance, et même qu'on est capable de prononcer des choses qui sont merveilleuses spirituellement, que l'on appartient à Dieu. C'est Balaam qui dit, qui fait la prophétie concernant, au chapitre 24, verset 17, il dit, « Je vois maintenant, et je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ce qui échappe des villes. Et on sait bien qu'il parle du Messie ici. Il parle du Messie. Et Dieu l'a utilisé pour de tels oracles. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. Il utilise ses enfants, mais utilise aussi ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu peut utiliser celui qui est sur le chemin de la perdition, de même qu'il a pu utiliser celui qui a été appelé fils de perdition, c'est-à-dire Judas. Judas faisait des miracles comme les autres. Judas a reçu la puissance comme les autres. Et il ne faut pas préjuger du fait que Dieu nous utilise dans un service pour croire que tout est OK. Ce qui compte, ce n'est pas d'être dans la permission de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas d'être utilisé par Dieu. Ce qui compte, c'est d'être béni de Dieu. Et Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Balaam, tu ne toucheras point ce peuple parce qu'il est béni, ma main repose sur lui. C'est ça qui est important. Et dans la parole de Dieu, nous lisons en Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je vais terminer avec cela. Éphésiens chapitre 1. Au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituel dans les lieux célestes en Christ. C'est là que doit se trouver notre assurance. Sommes-nous bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ? Avons-nous Christ? Ou y a-t-il dans notre cœur quelque chose qui nous pousse à agir, qui nous démange, une chose à laquelle nous courons. Peut-être nous sommes là le dimanche matin, mais en semaine, c'est ce après quoi nous courons. C'est ce qui nous motive comme Balaam. C'est ce qui fait que l'on cherche à avoir des permissions de la part de Dieu, plutôt que de la soumission à sa parole. Si tel est le cas, eh bien nous devons venir demander au Seigneur de nous délivré de cela. C'est ce qu'Ézéchiel appelait les idoles du cœur. Il disait, Dieu disait à Ézéchiel, regarde ce peuple, quand il vient, ces hommes, ils viennent devant moi avec leurs idoles dans leur cœur. C'est pas visible, c'est caché. Mais ils viennent avec moi avec leurs idoles. Je dis, je leur répondrai. Dieu répond, alors on est satisfait. Ah, Dieu m'a répondu parce que, oui, mais ce qui compte, c'est pas que Dieu nous réponde. Ce qui compte, c'est pas qu'il dise oui. Ce qui compte, c'est pas qu'il nous utilise. Ce qui compte, c'est d'être assuré, d'être béni par lui en Jésus-Christ. C'est de venir à Jésus-Christ aujourd'hui, maintenant et chaque jour pour être dans une véritable communion avec lui. Et il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu nous montre à travers ce passage qu'il peut permettre des choses qu'il n'approuve pas. Et qu'il agit ainsi toujours pour montrer son véritable caractère. Mais qu'est béni uniquement celui qui est béni par lui, celui sur lequel il a sa main, en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole et te demandons que tu nous aides à considérer ces choses. Que celui qui est en toi est en pleine sécurité. Le malin ne peut l'atteindre. Mais Seigneur, donne que nous ne nous trompions pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Que nous soyons soumis à ta parole constamment. Que nous ne cherchions pas à obtenir ce que tu ne veux point nous donner. Seigneur, donne-nous de nous soumettre pleinement à ce que nous voyons être révélé dans ta parole. Donne-nous d'être soumis. Donne-nous de venir à toi dans la repentance, rechercher vraiment cette communion avec toi. Et nous te prions pour ceux qui ici ne te connaissent pas encore, que tu parles à leur cœur. Seigneur, qu'ils viennent à toi dans la repentance, sachant que c'est toi seul qui es souverain sur la malédiction, sur la bénédiction, et que c'est en toi qu'est la véritable bénédiction, que tu agisses ainsi pour la gloire de ton nom. Amen.